Le texte que j'ai choisi de partager avec vous ce matin est tiré du livre des Actes. C'est un passage bien connu de notre Bible et je suis sûr que la plupart d'entre vous ici ont lu et entendu de nombreux sermons prêchés sur ce passage. Mais ce qu'il y a de beau dans la parole de Dieu, c'est que chaque fois que nous lisons, nous trouvons quelque chose de différent parce que c'est le seul livre à travers lequel qui est l'auteur du livre nous parle d'une manière très personnelle. Et chaque fois que nous ouvrons nos Bibles, nous sommes aussi différents de ce que nous étions la fois précédente. Chacun de nous vit sa vie chrétienne différemment, dans des situations et des circonstances qui peuvent être très, très différentes dans les autres. Et Dieu parle à chacun de nous d'une manière très personnelle, car il connaît notre besoin à ce moment-là. Et c'est pourquoi nous appelons la Bible la parole vivante. Ouvrons nos Bibles au chapitre 8 des Actes des Apôtres et lisons le verset 26 à 40. Actes des Apôtres et lisons le verset 26 à 40. Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 26 à 40. Que le Seigneur soit avec nous et nous guide dans notre compréhension de sa divine parole. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend à Jérusalem, à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et est parti. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors venu à Jérusalem pour adorer. Verset 28. S'en retourner, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe et lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et celui-ci s'invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Verset 32, le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. » Et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'unique dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonce la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient le chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, « Voici l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. C'est la parole de Dieu. Je donnais le titre pour ce sermon comme suit. Dieu fait tout pour le seul brebis perdu. Dieu fait tout pour le seul brebis perdu. De nos jours, nous voyons des gens courir pour voir des miracles et des prodiges dans les églises. Les églises qui proclament opérer des prodiges et des miracles se multiplient dans notre monde d'aujourd'hui. Mais les choses n'étaient pas si différentes à l'époque de Jésus non plus. Une foule le suivit pour ces miracles. Je pense que c'est dans la nature humaine de célébrer le don plutôt que celui qui le donne. Dieu est le même Dieu des merveilles et des miracles encore aujourd'hui. Dieu ne change pas. Mais le miracle le plus merveilleux est le miracle d'un pécheur qui se convertit à Christ. Le plus grand de tous les miracles, c'est quand Dieu transforme un pécheur en saint. Cela dit, tournons maintenant notre attention vers le texte que nous avons devant nous ce matin. Verset 26, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, qui est celui qui est désert. » Le livre d'Actes s'intitule « Actes des apôtres ». Mais quelqu'un avait dit qu'il aurait plutôt fallu l'appeler « Actes du Saint-Esprit ». Vrai, quand nous lisons ce livre, nous voyons les œuvres du Saint-Esprit. Il est l'acteur principal de ce livre. Et bien sûr, nous comprenons que le livre est écrit et nommé de manière que nous puissions comprendre correctement le fondement de l'Église primitive et la façon dont elle fonctionnait avec les apôtres. Nous lisons que l'ange du Seigneur déplace Philippe de l'endroit où il se trouvait vers un lieu inconnu. Ni la raison, ni le destin n'est donné à Philippe. Naturellement, nous nous demandions où était Philippe en ce moment-là et que faisait-il? La réponse se trouve dans le 8 premier verset du même chapitre, acte 8. On peut lire le premier 8 versets, acte chapitre 8, le premier 8 versets. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté des apôtres, se dispersèrent dans le contrée de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Verset 3, Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques et poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. C'est ça la situation où se trouve Philippe dans Samarie. Face à la persécution, les chrétiens de l'église primitive de Jérusalem ont été dispersés. Étienne tombe comme le premier martyr de l'église. Saul, qui était le jeune homme qui gardait les vêtements des gens pour assassiner, qui se ressemblait pour lapider Étienne, fait des ravages. Philippe, l'un des sept diacres choisis pour servir l'Église, s'enfuit en Samarie pour prêcher l'Évangile de Jésus-Christ. Il accorde des signes et des prodiges tout en prêchant la parole de Dieu. Tout le monde en Samarie est heureux d'entendre l'Évangile prêché par Philippe. Il y avait un réveil spirituel qui se produit en Samarie. Juste à ce moment-là, Dieu appelle Philippe et lui ordonne d'aller quelque part, loin de la Samarie. Est-ce que c'est déroutant? Comment Dieu travaille-t-il? Pourquoi Philippe devrait-il abandonner un ministère florissant? Qui peut comprendre les voies de Dieu? Souvent, nous ne comprenions pas et nous sommes perplexes face à la manière dont Dieu travaille. Il voit des choses que nous ne nous voyons pas. Il est le Dieu omniscient. Lui seul peut voir notre passé, notre présent et notre avenir. Nous sommes des créatures limitées par le temps et la distance. Mais il ne l'est pas. Il peut voir au-delà de ce que les microscopes et les télescopes peuvent nous montrer. Comme il devrait être bon pour nous de nous reposer dans le bras de ce Dieu omniscient. Mais après tout, les dernières paroles de Jésus à ses disciples avant de monter au ciel étaient exactement ce qui se passe maintenant en Samarie. Jésus l'a dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Les disciples, certainement les apôtres, n'ont pas compris ce que ça veut dire. À Jérusalem et en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, probablement ces quelques disciples de Galilée ne savaient pas alors comment cela pouvait arriver. Ils n'ont probablement jamais franchi les frontières de la Judée et de la Samarie. Ils sont des simples hommes, des pêcheurs. Souvent, ils n'ont pas fait beaucoup d'études, mais ils ne savaient pas comment il peut aller jusqu'à l'extrémité de la terre. Comment l'évangile peut partir jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ce que Dieu promet arrive certainement. Nous pouvons en être sûrs. Revenons donc à notre texte, verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Qui dans ce monde voudrait tout laisser tel quel et aller vers le désert? N'est-ce pas une folie de le faire? Qui dans ce monde voudrait tout laisser tel qu'elle est, aller vers le désert? Oui, quelqu'un qui a fait, c'est Jésus, le grand berger du troupeau qu'il a fait, le seul bon berger. Mais quelque chose de beaucoup plus important était en train de se produire dans la vie de Philippe. Le grand berger des brebis enseignait à Philippe quelque chose du cœur d'un vrai berger. Il recevait l'ordre de laisser les 99 sains et saufs dans la bergerie de Samarie et d'aller trouver le seul brebis, une brebis qui est perdue dans le désert. Regardez le verset 27, la première partie de verset 27. Et Philippe, il se leva et partit. Un serviteur de Dieu qui obéit à son maître sans aucun raisonnement. Son bon sens n'interrompit pas son obéissance immédiate. Il ne s'est pas arrêté pour demander pourquoi, comment et où. Une grande leçon pour nous tous. Au cours des dernières semaines, nous avions étudié le livre de Jonas le mardi soir. Nous avons vu ses raisonnements et sa rébellion. Mais ici, nous voyons que ce n'est pas le cas de Philippe. Un serviteur obéissant. Il n'était pas un apôtre, mais simplement, il était un diacre dans l'Église. Et quand les sept diacres étaient choisis dans l'Église primitive, il était choisi pour servir l'Église, pour occuper des veuves qui étaient un peu négligées, veuves grecques qui étaient un peu négligées. C'était ce qu'était en train de faire Philippe avec Étienne et les cinq autres. Mais ici, Dieu lui donne une grande commission. Il l'envoie comme une missionnaire vers quelqu'un qu'il ne connaît pas. Regardons la deuxième partie de verset 27 et la suite. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retourner, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe, et lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ? » Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» il l'invita Philippe à monter et à asseoir et s'asseoir avec lui. Philippe se rend docilement dans le désert de Gaza et l'Esprit lui ordonne de s'approcher d'un char où il entend un homme lire à la haute voix le rouleau d'Isaïe. Dans les temps anciens, le parchemin appelé vellum, je ne sais pas comment ça se prononce, V-E-L-L-U-M, était préparé à partir de cuir de veau ou d'agneau qui est très coûteux. Comme c'était très coûteux, tout l'espace a été utilisé. Il n'y avait pas d'espace entre les mots. Ils couraient tous ensemble, les mots, et il n'y avait pas de ponctuation non plus. Les scribes, lorsqu'ils copiaient très intentionnellement, utilisaient au maximum tout l'espace disponible sur le vellum, sur le parchemin. Par conséquent, la seule façon de choisir des mots était de lire des lettres à haute voix, ce que vous lisiez, puis vous entendiez phonétiquement comment les consonnes se connectaient ensemble pour produire les mots. Mais c'était écrit ensemble, donc ils devraient lire à haute voix pour comprendre ce qui est écrit. Sinon, ils ne peuvent pas comprendre. Parce que l'eunuque lisait à haute voix, Philippe reconnut l'écriture que l'eunuque lisait. Sinon, on peut poser les questions. Comment Philippe a pu reconnaître ce qu'il est en train de lire? Dans le livre d'Actes, chapitre 9 à 10, nous connaissons le nom de ceux qui sont convertis. Et deux autres personnes, le chapitre 9, on parle de conversion de l'apôtre Paul. Et chapitre 10, on parle de Corneille. Mais ici, dans Actes 8, on ne nous dit pas le nom de cet homme. Certainement, il était un homme noir, un Éthiopien. Éthiopien, ça veut dire noir. Il n'est identifié comme un homme d'Éthiopie qui était un eunuque. Luc ne l'identifie comme un Éthiopien qu'au début de l'histoire, mais se réfère à lui comme un eunuque le reste de l'histoire. Si vous regardez les versets 34, 36, 38 et 39, c'est mentionné l'Éthiopien qui était l'eunuque. Il insiste donc sur le fait qu'il était un eunuque. Curieusement, dans la Bible tamoul, je lisais la Bible tamoul pour voir qu'est-ce qui est marqué, le traducteur n'avait tout simplement pas préféré noter qu'il était un eunuque. Je pense que c'est culturel, je ne sais pas. Vous pouvez vérifier dans les autres Bible de votre langue, si vous avez, vous pouvez lire si c'est marqué ou pas. Mais en tout cas, dans le livre anglais et français, je pense que dans la langue originale, c'est mentionné que Éthiopien, l'eunuque. Nous devons comprendre le mot eunuque tel qu'il est énoncé dans notre texte. L'émasculation était une pratique dans les anciennes cours royales pour ceux qui étaient distingués pour des promotions à des niveaux de services très fiables. Par exemple, des eunuques étaient nommés pour surveiller le harem du roi. L'harem était évidemment en sécurité sous la surveillance d'un eunuque qui était incapable d'être tenté. Il était immunisé contre la séduction. L'émasculation était un moyen de s'assurer qu'un serviteur de haut rang resterait loyal et singulier. La mutilation enlève presque toutes les raisons de traiter. Cet eunuque avait probablement été mutilé pour éliminer toute distraction de tout intérêt vers les femmes et pour l'empêcher d'avoir des enfants. Cela éliminerait des forces motrices dans la planification d'un homme pour sa propre vie. L'expression de sa masculinité et la paternité. En conséquence, l'eunuque n'aurait aucune tentation d'acharner pour favoriser sa propre famille. En tant que fonctionnaire de confiance chargé de tous les trésors de la reine, il a apparemment eu le privilège de créer une vie confortable grâce à son immense richesse. Quand il est dit qu'il a servi sous Candace, la reine d'Éthiopien. Candace n'était pas un nom, mais un titre comme pharaon. Les Candace étaient reines en Nubie. Aujourd'hui, le Nubie, c'est le Soudan d'aujourd'hui, dans la région du Nil supérieur. Cela renforce le fait que cet homme était noir parce que toutes les reines nubiennes étaient noires. Donc, quand Philippe était très occupé en Samarie, il ne savait rien de cet eunuque éthiopien qui s'était rendu à Jérusalem et qui est maintenant en train de retourner dans son pays. L'Éthiopien ne savait rien non plus de Philippe. Mais Dieu a vu l'Éthiopien. Il pouvait voir le désir profond de son cœur. Même si la Bible ne révèle pas son nom, il le connaissait par son nom. El Roi, le Dieu qui me voit, le Dieu de Agar. Même si s'il était un homme païen, il le connaissait avant même qu'il ne soit formé dans le sein de sa mère. Celui qui compte les étoiles dans le ciel et les bétails sur les montagnes, sur les 1000 collines, est le Dieu omniscient. Maintenant, attendez une minute. Avez-vous pensé à la façon dont cette belle rencontre s'est déroulée? Mais on peut passer par des détails. Et comment s'est déroulée cette rencontre? Regardez le verset 27. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, se retourner assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de sa chair, de ce char. Vous pouvez probablement imaginer que les routes de ces deux personnes se rencontrent quelque part dans le désert et qu'elles se voient par accident. Mais un qui part de Samarie, l'autre qui vient de Jérusalem, mais les deux devraient rencontrer à un moment donné un certain lieu, n'est-ce pas? On peut penser que les deux voies se rejoignent par accident. Accidentellement, dans le plan de Dieu, il n'y a pas d'accident. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Cela se produit à une époque où il n'y avait pas de montre, de téléphone, de GPS ou de satellite pour nous guider. Philippe marchait sans aucun doute vite et l'Éthiopien parcourait le chemin du désert dans son char. Avez-vous remarqué le timing de cet incident? Mais aujourd'hui, on a beaucoup chanté sous le drapeau du Seigneur Jésus-Christ. On a parlé de soldats, on a parlé de bannières. Et chaque 14 juillet, nous avons le défilé aux Champs-Élysées. Nous avons l'avion qui survole le Champs-Élysées. Et tous les avions ne décollent pas du Bourget, hein. Il vient de différents aéroports, parfois 100, 200 kilomètres plus loin, autour de Paris. Mais ils tous se retrouvent au-dessus de Champs-Élysées pour le défilé. Mais comment c'est possible? Aujourd'hui, nous avons des équipements très modernes, comme le GPS. On peut planifier exactement qu'ils se rencontrent sur le Champs-Élysées. Mais l'époque des Philippe et les Éthiopiens, comment Dieu, il a fait ces deux âmes rencontrer dans un lieu aride et désert où il n'y avait personne. C'est miraculeux, n'est-ce pas? Mais parfois, ça m'arrive de regarder le Tour de France, ceux qui font le vélo. C'est magnifique, l'image, il peut montrer par le drone ou par l'hélicoptère. Mais le cycliste, il ne peut pas voir. Mais Mais de très haut, on peut voir les pistes qui peuvent rejoindre, qui peuvent séparer, qui divisent. Donc, Dieu a fait l'Éthiopien et Philippe de rencontrer. Dieu emploie tous les moyens en fait et fait tout ce qui est en son pouvoir et en sa sagesse pour sauver le seul homme perdu dans le désert. Dieu, il emploie tous les moyens possibles, mais nous ne voyons pas. La force invisible, Dieu l'emploie tous les moyens pour sauver une seule âme perdue. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Romains 11, 33-34. Nous voyons que cet eunuque a parcouru une longue distance pour adorer à Jérusalem. Cela aurait été un voyage incroyablement difficile et dangereux. D'une manière ou d'une autre, peut-être par l'intermédiaire de quelques Juifs qui avaient été dispersés dans la nation de la terre, cet homme était devenu un adorateur du Dieu d'Israël et avait appris qu'il acceptait l'adoration à Jérusalem. On ne sait pas, la Bible ne nous parle pas comment cette personne a entendu parler de Jérusalem, le Dieu que les enfants d'Israël ils adoraient au temple de Jérusalem. Et on ne connaît pas ce qu'il croyait exactement. Il a peut-être croyé en Dieu puissant, tout puissant, de Dieu d'Israël. Comme plus tard dans le chapitre 10, nous voyons que Corneille était un homme très pieux, religieux. Il adorait un Dieu qu'il ne connaissait pas. Et même l'apôtre Paul, quand il était en train de marcher sur le chemin de Damas, il demandait, « Seigneur, qui es-tu ?» Donc il ne savait pas. Donc cet homme, il a entendu parler d'une manière ou d'autre, ce Dieu d'Israël. Donc, il est presque certain que la raison pour laquelle il est venu à Jérusalem était spirituelle. Il y avait une quête spirituelle en lui. Il a dû faire ce difficile voyage périlleux jusqu'à Jérusalem dans l'espoir d'offrir des sacrifices pour ses péchés au temple. Et l'homme, il a cette culpabilité de péché en lui. Tout homme, il a cette culpabilité de péché en lui. La ville de naissance de ma mère, en tamoul, ça veut dire destructeur du péché. Et l'autre jour, j'étais en train de parler avec ma femme, mais où vient cette pensée détruire le péché? Donc, chaque homme, dans n'importe quelle religion, il porte ce lourd fardeau du péché, de culpabilité de péché. Donc cet homme, il cherchait peut-être ainsi. Ce qui est tout aussi certain, c'est qu'à son arrivée à Jérusalem, il aurait été déçu. Premièrement, il était éthiopien, un étranger. Il ne pouvait donc pas entrer dans le temple au-delà de la cour des païens. Le judaïsme du premier siècle décrivait les païens comme des chiens et des impurs. Sans aucun doute, l'unique Éthiopien était un homme religieux. Il avait entrepris ce voyage fastidieux et coûteux jusqu'à Jérusalem pour adorer le Dieu d'Israël dans son Saint-Temple. Il y avait une soif intérieure de Dieu au fond de son cœur que personne ne pouvait voir. De nos jours et dans notre pays, il y a des milliers de personnes qui vont à Lourdes. Dans les Pyrénées, en France, dans l'espoir d'adorer Dieu. Malheureusement, tous ne sont pas à la recherche du salut. Jésus n'a-t-il pas dit « celui qui cherche, trouve ». Mais pour cet homme, son handicap physique l'empêchait de surmonter un obstacle encore plus grand. La loi de Deutéronome 23:1 déclarait que quiconque était émasculé ne pouvait entrer dans l'assemblée du Seigneur. La loi mosaïque avait érigé un mur de séparation. L'endroit où il était venu trouver Dieu était interdit pour des personnes comme lui. Il a été exclu de l'enceinte du temple et des sacrifices. Et maintenant, il est sur le chemin de retour. Tout ce chemin n'est toujours pas de réponse au désir le plus profond de son cœur. Certainement, il rentre déçu. L'unique Éthiopien revenait de Jérusalem. Il avait été séparé du peuple de Dieu et banni du temple. Son long voyage était avéré, infructueux. Jérusalem était apparu spirituellement stérile, comme le désert qu'il traversait maintenant sur le chemin de retour. Il était troublé, déçu et plein de questions. Mais le voici, assis dans son char et en train de lire le rouleau d'Ésaïe, il n'a pas baissé le bras. Sa quête persistante pour trouver le vrai Dieu se poursuit. L'eunuque est arrivé dans sa lecture du rouleau d'Ésaïe, chapitre 53. Alors qu'il lit les versets 7 à 8, il y a une question. Sa question est, de qui le prophète parle-t-il? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Lisons le verset 30 à 34. On va relire le verset 30 à 34. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » N'est-il pas ironique que le verset que cet eunuque lit alors que Philippe s'approche de ce char décrit un homme qui meurt sans enfant? L'eunuque est intrigué par le fait qu'une partie de la douleur de la souffrance de cet homme est-il mourait et qu'il mourait sans enfant. Il a connu la même douleur parce que c'était aussi son destin. N'est-il pas ironique que le verset que l'eunuque lit alors que Philippe approchait de son char décrit un homme qui meurt sans enfant? Il a connu la même douleur parce que c'était aussi son destin. Le prophète Ésaïe 53 est peut-être la description la plus claire des événements entourant la mort de Jésus et tous les passages de toute la Bible. Certes, par le nombre de citations d'allusions à Ésaïe 53 dans le Nouveau Testament, on peut compter jusqu'à 40 références d'Ésaïe 53 dans le Nouveau Testament. Nous savons que Ésaïe 53 était le passage central de l'Ancien Testament pour interpréter la passion ou la mort de Jésus. Ésaïe a été l'un des principaux instructeurs de la communauté apostolique du 1er siècle. Et en particulier, Ésaïe 53 jouait un rôle central dans le développement de l'Évangile. Ainsi, Philippe pouvait commencer juste là, il pouvait choisir juste à ce moment-là et dévoiler l'Évangile à l'eunuque avec une grande facilité. La parole dit ainsi, verset 8 de chapitre 8, « Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Il est parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour des péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre à sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. » Il a plu à l'Éternel de briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Alors que penserait l'eunuque en lisant jusqu'à verset 10, au verset 8, il a lu que Jésus est mort sans descendance. Alors comment pouvait-il voir sa postérité et prolonger ses jours? C'est là que Philippe lui enseignait la résurrection, que ce Jésus n'était pas seulement crucifié et enseveli, mais qu'il était ressuscité du tombeau. Sa vie a été écourtée sans descendance au verset 8, mais il a été ressuscité pour voir sa descendance au verset 10. Jésus a prolongé ses jours quand il est ressuscité d'entre les morts, et quand l'Éthiopien est venu à la foi, Jésus a vu sa postérité. Et lorsque vous et moi arrivons à la foi, il continue à voir sa postérité en nous. On va continuer avec notre texte, verset 36. Comme ils continuaient le chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que nous soyons baptisés? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Le cadre de cette rencontre est significatif. C'est dans le désert, ce qui correspond à l'endroit où se trouve l'eunuque, à la fois spirituellement et physiquement. Le désert est aride. Cet homme l'est aussi. Mais au fur et à mesure que le drame divin de salut de cet homme se déroule, alors qu'il vient à la foi, la topographie change et sort du désert pour devenir une oasis, un lieu de beaucoup d'eau, un lieu de rafraîchissement et de fertilité. Il n'a pas la foi dans le désert, mais il vient à la foi à l'approche de l'oasis. Alors que Philippe prêche Jésus à l'eunuque, et eunuque, il commence à sortir du désert pour entrer dans une oasis, un lieu où il y a beaucoup d'eau. L'excitation monte chez l'eunuque alors que la lumière du salut s'élève dans son cœur et il pose une question. Regardez, voici l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser? Qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser? La question de l'eunuque anticipe peut-être une autre barrière juridique qui l'empêcherait de recevoir le baptême. Il dit, écoutez, je ne veux pas être dessus à nouveau, parce qu'il était déjà été dessus à Jérusalem. Il n'était pas permis d'entrer dans le temple de Jérusalem à cause de sa statut de nationalité, à cause de son statut social, à cause de son statut handicap. Il n'était pas permis d'entrer dans le temple. Mais il dit, je ne veux pas être dessus à nouveau. J'ai déjà été jugé étranger et eunuque. Et pour ce motif proscrit, étaient des petits caractères cachés, comme se trouve dans les contrats d'assurance que nous prenons, qui vont m'empêcher de croire en ce Jésus et d'être baptisé en son nom. Voici l'eau, et qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et Philippe, dans le verset 37, dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois en Jésus-Christ. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous voyons ici que Philippe est brusquement amené par le Saint-Esprit vers un autre endroit pour une autre mission. Les deux descendent dans l'eau et Philippe baptise l'eunuque. Et tout de suite après, nous voyons que Philippe est brusquement emmené par le Saint-Esprit vers un autre endroit pour une autre mission. L'œuvre de salut commence et se termine avec Dieu. L'homme n'est qu'un instrument dans la main de Dieu puissant. Nous devrions être clairs au-dessus. L'homme, il est pour rien. On est tous simplement les outils dans la main de Dieu tout puissant. Combien de fois avons-nous besoin de marcher humblement devant Dieu? Nous n'avons jamais entendu parler de cet unique Éthiopien sans nom. Cet homme a ramené en Éthiopie un rouleau d'Ésaïe qui était souillé des larmes de joie. Dans quelle mesure cette rencontre avec Philippe et Ésaïe a-t-elle changé cet homme? Pendant une courte temps, Philippe prêche la parole à cet homme, il prêche l'évangile à cet homme, il accepte le Seigneur, il fait baptiser, il rentre chez lui joyeux. La tradition parmi les premiers chrétiens, et qui est attestée par le père de l'Église, était que l'eunuque est devenu le père de l'Église en Éthiopie. La tradition nous dit qu'il a engendré l'Église copte, qui est l'une des plus anciennes expressions du christianisme qui a survécu jusqu'à ce jour, et dont les racines remontent directement au 1er siècle, et cet eunuque. Même la montée de l'islam n'a pas pu enlever la croix du Christ à ces gens. Il s'accroche encore aujourd'hui. Nous avons parlé de bannière de Christ. C'est l'une des églises les plus persécutées de l'histoire. Cette église qui nous a donné Clément d'Alexandrie, Origène et Athanase, à travers les siècles, millions de membres de cette église appellent cet eunuque leur père spirituel. L'eunuque éthiopien a été choisi par la miséricorde de Dieu d'être le père de la foi en Afrique. Est-il quelque chose que notre Dieu ne puisse pas faire? Mais si vous voyez bien, les trois fils de Noé sont partis dans des directions différentes. Et Ham, il est cet homme, l'éthiopien, il est descendant de Ham. Et Shem, c'est le Moyen-Orient et tous les pays qui entourent. Et Japheth, il est descendu vers l'Europe. Et donc, le Seigneur, il a béni Abraham en disant que par toi, je multiplierai ta race et la terre se sera bénie par toi. Donc, nous voyons encore une fois que le Seigneur, il est en train d'accomplir ses promesses. Et acte, premier chapitre, il a dit, vous allez prêcher l'évangile partout dans le monde. Philippe, il n'est pas pu partir jusqu'à Éthiopie. Mais le Seigneur, il a préparé quelqu'un pour amener l'évangile jusqu'au pays d'Afrique. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Y a-t-il quelqu'un qui se sent perdu aujourd'hui? Et qui se demande si Dieu se soucie vraiment de lui. Oui, il se soucie de vous. Il se soucie de nous. Il est le bon berger qui est prêt à laisser ses 99 autres brebis et qui ferait tout pour retrouver les brebis perdues. N'a-t-il pas dit dans la maison de Zachée, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus? Au cas où vous le chercheriez comme cet eunuque éthiopien, sachez qu'il est prêt à tout faire pour vous retrouver et se révéler à vous pour vous accorder ce don gratuit de salut. Vous voulez savoir jusqu'où il irait pour vous sauver? Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jusqu'au bout où Christ est allé pour sauver un pécheur perdu. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il a donné son fils unique sur la croix du calvaire. Et la parole nous dit en Jean 3:16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a déjà pourvu à ce qui devrait être payé en rançon pour le salut de tous les hommes. Il veut que personne ne périsse. Pour être sauvé, tournez-vous vers lui et croyez en lui que Jésus-Christ a sacrifié sa vie pour vous, vos péchés, et ayez la vie éternelle. Tout comme le serpent des reins, le frère l'a lu ce matin, tout comme le serpent des reins a été élevé dans le désert par Moïse pour les enfants d'Israël, afin que quiconque se retourne et regarde le serpent pour être sauvé. Jésus est devenu le symbole de la malédiction du péché et était élevé sur la croix pour sauver les pécheurs mourants. J'en suis sûr que tous ceux qui ont été mordus par le serpent dans le désert n'ont pas été sauvés. Tous ceux qui étaient mordus par le serpent dans le désert n'ont pas été sauvés. Mais quiconque regardait au serpent des reins de Moïse était sauvé. Ça, c'est la promesse. C'est Dieu qui dit. Mais quiconque regardait le serpent des reins de Moïse était sauvé. Dieu n'a pas choisi parmi les gens qui devraient être sauvés et qui ne devraient pas être sauvés. Il a simplement dit à Moïse, tu fais le serpent des reins, tu montes sur un poteau et tu tiens très en haut. Et quiconque regarde ce serpent des reins, qui obéit la parole de Dieu, qui place sa foi en lui, se sera sauvé. C'est la promesse. Le choix leur appartenait. Dieu avait préparé un chemin pour être sauvé. Si vous regardez à travers de la parole de Dieu, Dieu a toujours donné le choix à l'homme. Je vais lire quelques versets de la parole. « Moi, je mets aujourd'hui devant toi la vie et la bien, et le bien. » Le mort et le mal. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Deutéronome 30, le verset 16 et le verset 20. Et encore, il a dit en Josué, livre de Josué, chapitre 24, verset 15, Josué dit, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux de Amorien dans le pays desquels vous habitez. » Josué dit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons. » Donc Dieu a donné le choix à l'homme. Il a montré ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est mauvais. Il a mis le chemin entre la vie et la mort. Et si vous voulez regarder dans le Nouveau Testament, je peux lire ce passage. Apocalypse 3:20, c'est Jésus qui dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc, Jésus peut forcer le chemin chez quelqu'un. Il ne fait pas. Il tient la porte, il frappe. Si quelqu'un entend ma voix, s'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. C'était une chose très coûteuse à offrir à l'homme, ce choix. De pouvoir choisir, c'était très coûteux pour Dieu. Savez-vous qu'il savait dans sa préscience que cela lui coûterait la vie de son Fils unique, le Seigneur Jésus? Dieu savait, s'il va donner le choix, il va certainement faire le contraire. Il va désobéir Dieu et ça va coûter de sacrifier le sacrifice de son Fils unique. Mais pourtant, Dieu a donné ce choix à l'homme. Dieu sait qui sera sauvé et qui ne le sera pas. Cette chose peut et doit être vue à travers de son caractère. Le caractère, ce qu'on appelle l'omniscience de Dieu. Dieu, il connaît toutes choses. Dieu, il connaît toutes choses, mais il ne force personne. Il sait que ce que nous allons faire, si nous allons accepter Jésus-Christ comme notre sauveur, ou nous n'allons pas accepter Jésus-Christ comme sauveur. Et il faut toujours voir cette choix de Dieu de donner le choix à l'homme de l'accepter ou de ne pas accepter par son caractère, l'omniscience de Dieu. L'amour de Dieu ne peut pas être séparé de justice de Dieu. Mais souvent, nous avons la tendance de prendre une partie de Dieu, le parti de Dieu qu'on aime, que Dieu est amour, il ne va pas nous punir. Non, c'est Dieu, il faut voir Dieu ensemble avec tout son caractère. Sinon, il n'est pas le vrai Dieu. Vous pouvez croire en un Dieu d'amour qui ne peut pas vous punir, qui ne peut pas vous châtier. Non, un père, ce n'est pas un père qui ne châtie pas son enfant. On ne peut pas diviser Dieu. Quiconque dit « je suis brisé et faible », la religion du monde ne me permet pas de m'approcher de Dieu. Votre handicap physique, votre handicap social vous empêche-t-il d'atteindre Dieu? Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ça, c'est la promesse de Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. L'homme avait toujours érigé des barrières pour empêcher des autres d'approcher de Dieu. L'homme, il construit des barrières constamment au nom de la religion. Mais Dieu avait construit un pont pour l'approcher par l'intermédiaire de son Fils unique, Jésus-Christ. L'homme, il construit les barrières, mais Dieu a construit un pont à travers de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un moment dans la vie de chaque homme où il se sent que sa vie et ses travaux et ses œuvres n'ont pas porté du fruit. L'Éthiopien avait le pouvoir. Il était très puissant dans le royaume de la reine de Candace. Il avait le pouvoir, il avait l'argent, il était le trésorier de la reine même. Il avait l'honneur, il avait l'autorité et tout autre chose dans ce monde, mais il sentait un vide dans sa vie. Il sentait un vide dans sa vie. Jésus vous appelle à aller à lui. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, dit, je vous donnerai le repos. C'est le Seigneur Jésus qui vous appelle à aller à lui. L'unique Éthiopien a dû franchir de nombreuses barrières dans sa vie pour connaître le Sauveur. Est-ce que c'est le cas pour vous? Est-ce que c'est le cas pour nous? Que le Seigneur bénisse sa parole. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole. Seigneur, nous pouvons nous-mêmes nous identifier avec cet homme éthiopien, l'eunuque, qui était un homme sans espoir. Il était retranché de la terre, comme il ne pouvait pas avoir sa génération. Mais Seigneur, dans sa vie spirituelle, tu as opéré des miracles. Seigneur, tu t'es révélé à lui et tu as montré ce que tu peux faire dans sa vie. Seigneur, nous sommes parfois, Seigneur, nous sommes dans le désert en train de chercher. Seigneur, nous étions comme des brebis errants. Nous étions en train de te chercher. Mais c'est toi qui nous as révélé toi-même, Seigneur. Seigneur, sans ta grâce, nous ne pouvons pas te trouver, mais tu as montré ta miséricorde et grâce immense envers nous, tes serviteurs. Aide-nous à être fidèles à toi, Seigneur, obéissant comme Philippe il était, de obéir sans argumenter, sans faire raisonner. Seigneur, obéir à ta voix et faire ta volonté, pour faire ta volonté. Et nous savons que tu peux nous utiliser puissamment si simplement nous sommes obéissants. Rends-nous obéissants, Père, pour être utile à ton service. Au nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, nous prions. Amen.